have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Ce soir, le sujet, c'est la diplomatie selon Donald Trump. Ayant pour slogan l'Amérique d'abord, le président des États-Unis se veut nationaliste et remet en cause les accords internationaux. Comment perçoit-il les relations entre son pays et le reste du monde? Quelle est sa stratégie? Donald Trump vient de nommer Mike Pompeo, ancien directeur de la CIA, au poste de secrétaire d'État. Alors qu'attendre de ce changement? Nous attendons vos questions et vos commentaires sur la politique étrangère des États-Unis. Pour participer, appelez le 001 202 205 26 33. Pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler.
Il y a plus d'hommes noirs en prison qu'à l'université. On n'a pas suffisamment d'emplois, surtout pour les jeunes noirs.
L'Amérique et vous, notre invité ce soir, c'est Jim Caesar, professeur à l'Université de Virginia à Charlottesville. Merci d'être avec nous ce soir.
Merci aussi.
Alors, Donald Trump, ce n'est pas un politicien de carrière, c'est un homme d'affaires. Il entend marquer sa différence avec l'establishment. Est-ce que, d'après vous, cela se ressent dans sa politique étrangère?
Ah oui, alors sa politique étrangère, c'est difficile pour lui parce que, comme vous disiez, il était l'homme d'affaires. Mais après un an, probablement, il a appris un peu son métier. Et on peut dire qu'on s'attend à ce que ça va arriver. Et maintenant, il a son équipe avec John Bolton et Mike Pompeo, donc, et Jim Mattis. Donc c'est une bonne équipe et on va voir ce qui va arriver.
Alors, son slogan, hein, l'Amérique d'abord, présageait d'une politique nationaliste, voire isolationniste. Est-ce que cette interprétation se confirme?
Alors, un peu. Il parlait dans une certaine façon qu'il va mettre l'Amérique premier, mais toujours il y a des problèmes parce qu'il y a des problèmes au monde. Il faut un peu changer. Et son équipe, plus ou moins, est moins Amérique premier que lui. Ça se voit. Et peut-être la réalité ne permet pas une stratégie complètement isolationniste. Quand même, il dit, par exemple, en ce qui se passe en Syrie, qu'il veut dans l'avenir, retirer les troupes. Les autres, son équipe dit non. Et pour le moment, on va voir ce qui va arriver. Il garde les troupes en Syrie, mais il parle toujours comme Amérique première.
Alors, il veut retirer les troupes. Il ne souhaite pas spécialement, il entend se recentrer sur son pays. Mais en même temps, il augmente le budget de défense. Comment le comprendre?
Alors ça, ce n'est pas contradictoire, parce qu'on peut dire que nous aurons une armée très forte, c'est nécessaire. Même si on est l'Amérique première, il faut avoir une défense très très dure pour protéger nos intérêts. Donc je ne vois pas que c'est pas exactement une contradiction. Et quand même, quand on parle de l'Amérique première, il y a des instances où on voit l'Amérique première. Par exemple, dans les négociations économiques avec les autres pays, il a commencé avec des stratégies plutôt américaines qu'internationalistes. Donc, c'est un exemple. Il suit sa politique de la campagne de 2016.
Alors, je vous propose qu'on laisse un petit peu la parole à un auditeur, un commentaire ou peut-être une question, on va voir. On a au bout du fil Abou Despoutine. Bonsoir Abou.
Bonsoir.
Alors, quel est votre commentaire ou votre question?
Oui, bon, surtout mon commentaire est que d'abord, je commence d'abord à rendre l'Amérique à sa grandeur. Et remercie surtout le président Trump pour sa politique d'Amérique first, l'Amérique première. surtout, il y a eu beaucoup d'avantages sur sa politique. On ne pourra pas prendre ce mot dans ce contexte tel qu'il dit. On sait déjà que l'Amérique est déjà la première puissance du monde économiquement sur tous les plans. Maintenant, chez nous ici, Africains, surtout Guinéens, l'Amérique cesse. Les intérêts que nous avions aujourd'hui est que moralement, nos leaders, surtout qui prônaient trop la démocratie, de démocratie en démocratie, pendant qu'on sache qu'au fond, de la démocratie en Afrique ici, souvent ça nous crée beaucoup, beaucoup de problèmes. La démocratie n'est pas adaptée au système de vie africaine, surtout guinéenne. Donc, ils appelaient toujours à des manifestations. Après tout, s'il y a chaos, s'il y a mort, ils s'enfuient en disant, ils accusent les présidents pour sortir, aller aux États-Unis, se coucher là-bas. Les négociations se font aux États-Unis, un peu partout ailleurs, pendant que ces partisans sont sous les balles dans leur pays. Ça a permis aussi aujourd'hui à l'Afrique de diminuer les violences des leaders politiques. Ça, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages chez nous. Surtout, là où nous sommes, ça a aussi éveillé le continent africain, surtout les Guinéens, parce qu'on était là à ouvrir la bouche aux aides qui venaient de l'Occident. Et maintenant, on sait que Trump a tout serré, a fermé le robinet, comme le disent les comédiens, a fermé tous les robinets. Et alors, il faut se lever, parce que tu sais que si tu ne travailles pas sur toi, tu n'auras rien. L'Amérique que tu pensais un pays de rêve n'a pas été fermée. Et voilà aujourd'hui les importances que nous avions aujourd'hui.
Donc vous êtes
surtout,
assez...
Surtout le travail.
Donc vous, en tout cas, oui. Vous avez envie de voir les États-Unis s'occuper un peu plus de leur politique intérieure et un peu moins de ce qui se passe chez les autres.
Exactement, parce que ça nous permet nous aussi de s'en occuper de nous-mêmes. Parce qu'on peut aider quelqu'un, mais si tu travailles, c'est que tu gagnes, tu es fier de ça qu'on t'aide. Donc, trop d'aide, et ça nous pousse au fainéantisme. C'est ça qui était arrivé pendant les heures passées aux États-Unis. Et
d'accord.
Maintenant, quelqu'un est venu, il a tout bloqué. Voilà maintenant les avantages. On commence maintenant à travailler. On n'a plus maintenant la tête sur les loteries américaines. On cherche à boucler chez nous ici maintenant.
D'accord.
Voilà des avantages.
Merci beaucoup, Abou, qui nous appelait de Guinée. Alors, je reviens vers vous, hein, Jim César. Vous parliez tout à l'heure de Mike Pompeo, donc ancien directeur de la CIA, qui est maintenant le nouveau secrétaire d'État. Comment comprendre cette nomination et qu'est-ce que ça va changer?
Alors, cette nomination est importante. L'ex-secrétaire d'État que Trump a limogé n'était pas très efficace, ça c'est sûr. Et il n'a pas gagné le soutien des membres du département d'État. Donc on peut dire qu'il était inefficace, même si le limogement n'était pas très bon, ça c'est sûr. Pompeo est plus important. C'est un type avec un record assez important. Il a été la tête de la CIA et il a bien formé là, il a bien joué là. Donc, on s'attend à ce qu'il va être un secrétaire d'État très, très, très bon et qu'il va finalement trouver des assistants au sein du parti du département d'État. Et on va voir le résultat, mais j'attends que ça va être quelque chose d'important.
Mmh. Donc, on va voir si la politique arrive à se mettre en place grâce à ce nouveau secrétaire d'État. Alors justement, hein, quelles sont les priorités du président Trump en matière de politique internationale? C'est quoi son agenda?
Alors, il y a des choses qui arrivent, qui sont très, très importantes. Même si on peut parler de sa stratégie générale, ça c'est vrai. Mais les choses arrivent, par exemple, la Corée du Sud, la Corée du Nord. C'est l'issue le plus important, disons, pour le moment. Est-ce qu'il va trouver une solution à ce problème-là? Les Américains attendent à ce qui va arriver. C'est très important. On peut dire la même chose que c'est les événements qui sont importants en ce qui concerne d'autres problèmes. Par exemple, ce qui va arriver avec les rapports avec l'Iran. Le président va prendre une décision dans deux semaines. Est-ce qu'il va continuer avec le pacte avec l'Iran ou non? On va voir. Donc, c'est ce qu'on voit avec les États-Unis, qui est un pays bien sûr, très, très important, que c'est déjà les, que c'est toujours les événements qui dirigent la politique étrangère, même plus que la stratégie générale.
Alors, on va. Vous avez parlé de Corée, vous avez parlé d'Iran, donc on va se concentrer sur ça. Donald Trump s'est dit prêt à rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong-un. Est-ce que vous parleriez d'une victoire sur le plan diplomatique?
Alors, c'est trop tôt à dire, mais tout est basculé.
C'est déjà un grand pas.
Oui, alors dans les dernières 24 heures, tout est basculé. C'est important de voir ce qui va arriver. Est-ce que ça va être possible d'avoir une péninsule en Corée qui sera dénucléarisée? Ou même on peut dire que Trump a joué un rôle en changeant la situation. Le résultat, on verra. C'est bien sûr trop tôt à dire. Mais ce qui est arrivé hier entre les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, la possibilité d'un accord entre les deux, la possibilité de dénucléarisation, c'est toujours des nouvelles possibilités qui sont arrivées depuis la présidence de Trump.
Alors justement, il y a quand même une avancée. Qu'est-ce qu'il a fait de différent, Trump, par rapport à l'administration précédente pour arriver à un tel résultat en Corée?
Alors, là, c'est difficile à dire. Il a commencé à accuser le président de Corée du Nord.
Des mots très durs,
en oui. Lui désignant l'homme fusé, les choses comme ça. Mm-hmm. Et il a dit clairement qu'il ne supporterait pas la possibilité des missiles nord-coréens et la menace aux États-Unis. Alors, on va voir si c'est important ou non, mais ça a changé la situation. Président Obama était toujours très, très prudent. Et quand il a laissé le bureau, Obama a dit « Cette situation avec la Corée du Nord n'est pas résolue. Ce qui est vraiment sûr, ce n'était pas résolu. » C'est une atmosphère différente. Là, on peut dire au moins.
Alors, on va passer la parole à un second auditeur. Au bout du fil, on a Guillaume B. Valentin de N'Djamena. Bonsoir.
Bonsoir Madame Morgan et bonsoir à tous les auditeurs.
Alors on vous écoute.
Ok, moi je dirais que le président Donald Trump, comme je l'avais souligné dans mon commentaire, n'est pas un politicien classique car la politique de Donald Trump est moins bénéfique pour les Africains et le reste du monde. Il faut commencer à voir quand un président qui est élu, il est élu. On sait très bien que quand il dit l'Amérique d'abord, on sait très bien qu'il est élu par les Américains. Et c'est avoir d'abord l'intérêt des Américains, mais il ne doit pas négliger beaucoup plus le reste du monde parce qu'un homme politique, un homme d'affaires, j'espère que ça a des sens réciproques. Ce sont des gens qui sont populaires, mais lui, il n'est pas populaire. Donald Trump voit seulement que l'intérêt de l'Amérique. Mais l'Amérique seulement. Assez, ne peut pas rien faire. Il faut avoir des relations avec les autres pays du monde. Quand on dit le président américain est démocrate, ça fait l'honneur de certains pays africains qui sont sous la dictature. Et on a les yeux tournés vers l'Amérique. Et à notre grande surprise, Donald Trump avait qualifié les pays africains les pays de merde. Et, voilà, et avec tout cela, avant de qualifier les pays africains les pays de merde, il avait sélectionné certains pays africains de les inscrire dans la liste noire. Avec tout ça, il avait insulté M. Bachar al-Assad comme un boucher d'animal, tu vois. C'est à laquelle diplomatie tu peux avoir avec des présidents comme ça. Et à notre grande surprise, j'aimerais poser la question à l'invité. Est-ce que l'ex-secrétaire de Donald Trump était limogé par rapport à ses visites dans les pays africains ou bien c'est dû à un autre problème?
Et alors,
quel avenir, oui. Et quel avenir sera pour M. Donald Trump dans la Maison Blanche? Et pour les Africains qui vivent actuellement en Amérique.
Alors peut-être, il y a deux questions, je ne sais pas laquelle vous préférez, Jim.
Alors, à mon avis, j'ai entendu la dernière partie, mais c'est vrai que l'ex-secrétaire d'État s'intéresse un peu à l'Afrique, mais ce n'est pas sûr que Trump a une politique claire en ce qui concerne l'Afrique. Mais son problème avec l'ex-secrétaire, c'est que il était tout à fait inefficace en ce qui concerne ses rapports avec le département d'État. Et il y a eu des différences entre Trump et son secrétaire en ce qui concerne d'autres questions. Par exemple, la différence avec l'Iran, il n'était pas d'accord. Et on va voir s'il est tout à fait d'accord avec le nouveau Monsieur Pompeo. Il sait très bien les positions de son nouveau secrétaire, parce que lui était déjà ministre de CIA. Donc, on va voir si c'est une différence. Mais la fin de M. Tillerson était bien sûr inévitable. Ça, c'est certain.
Alors, on parle du dossier nucléaire iranien. Donald Trump s'est donné, donc, vous l'avez mentionné, hein, jusqu'au 12 mai pour décider de rester dans l'accord iranien ou pas. Qu'en pensez-vous?
Alors, on va voir. C'est vrai que les Européens sont vraiment fermes sur la question qu'il faut qu'ils continuent l'accord avec l'Iran. Et c'est vrai que toutes les choses sont déjà données à l'Iran. C'était dès le premier jour, quand Obama lui a donné tant d'argent, etc. Donc, l'Iran a déjà possède la plus grande partie de ce qui existe entre les deux pays. Par l'avenir, Trump a dit qu'il ne permettra jamais à l'Iran de continuer à avoir des armes nucléaires, même en 10 ans. Peut-être que l'Iran va changer un peu en disant que oui, c'est possible que l'Iran va changer un peu. Et puis en disant, il peut changer d'avis, en disant qui sait ce qui va revenir. Donc, c'est important pour Trump de trouver un moyen, s'il peut, de négocier un autre pacte avec l'Iran, avec des changements de pacte que Obama a négocié.
Alors, sur ce dossier iranien, on voit bien, par exemple, que l'Europe ne suit pas forcément les positions de Trump. Est-ce que Washington peut se passer du soutien international sur la question du nucléaire iranien?
Alors là, ça c'est le problème. Est-ce qu'il est prêt à agir contre les Européens et la Russie aussi? Est-ce qu'il va, si vous voulez, continuer ce qu'il a dit pendant la campagne, que c'était un accord tout à fait stupide, on ne peut pas supporter cet accord, etc.? Ou est-ce que c'était seulement le discours de la campagne? Moi, j'ai l'impression qu'il va probablement ne pas accepter l'accord qui existe, qui va avoir une différence et qui va changer la politique en ce qui existe avec l'Europe actuellement. C'est ce que je pense, mais je ne sais pas exactement ce qu'il va faire.
Alors justement, hein, on va parler un peu de l'Europe, puisque c'est aussi dans l'actualité. Hein. Un jour après son investiture, Mike Pompeo, qui est donc le nouveau secrétaire d'État, est arrivé ce matin au siège de l'OTAN à Bruxelles. Qu'attendre de cette rencontre et quels sont les enjeux pour Washington?
Alors il y a des points d'accord là-dessus avec l'Europe. Le problème avec la Russie, les problèmes avec la Russie. Maintenant, Trump est à peu près dans le même camp que les Européens. Il a réagi fortement récemment en ce qui concerne l'Ukraine et aussi avec les problèmes avec les espions en Grande-Bretagne. Donc, à peu près la même position là-dessus. Dans d'autres manières, en ce qui concerne par exemple le pacte climat, qui est très important pour les Européens, alors, Trump, il a déjà renoncé l'accord originel. Donc, il y a des différences et des similarités. En gros, je dirais que probablement, il va trouver une solution entre les deux, qui est un peu différente d'Obama, qui ne va pas suivre toutes les idées européennes, mais pour les choses les plus importantes, la sécurité d'Europe, qu'il est avec les Européens.
Alors, on va une fois de plus laisser la parole à un de nos auditeurs et on a Diarra Kanyoumé du Mali. Bonsoir Diarra.
Et bonsoir Morgane, bonsoir à toute la rédaction.
Alors, quel est votre commentaire ou votre question, hein?
Ok, merci de me donner la parole. Morgane, à mon avis, je pense que vraiment Et puis, Donald Trump, il est venu dans la maison blanche. À mon avis, je pense que vraiment, je ne vois pas son efficace qu'il est en train de faire par rapport à la politique. Vraiment, il n'est pas trop fort dans la politique. Même Barack Obama, lui, il est mieux que Donald Trump par rapport à beaucoup de choses. Depuis, il est venu, il est en train de ménager les dossiers. Donc, vraiment, les grandes puissances d'aujourd'hui, elles sont en train de ménager du monde. Même, il faut regarder les cas de Syrie d'aujourd'hui. C'est les grandes puissances, elles sont en train de ménager Syrie. Sinon, depuis longtemps, la guerre de Syrie, ça doit être fini. Il faut imaginer, ça fait au moins 7 ans. La guerre de Syrie, c'était commencé avant Libye. Mais d'aujourd'hui, on veut dire que pour Libye, c'est mieux que Syrie. C'est par rapport à les grandes puissances. Sinon, si ce n'est pas les grandes puissances, c'est pas qui fait la guerre d'aujourd'hui. Parce que c'est eux qui sont en train de faire les marchands d'armes. Donc, à mon avis, je pense que vraiment Donald Trump, il doit changer son stratégie de politique. Même depuis qu'il est venu dans la Maison Blanche, même les problèmes africains, vraiment, lui-même, il ne parle pas de ça. C'est pour cela que vraiment, il n'a pas besoin, nous, les Africains, parce qu'on est pauvres. Donc, il est en train de marcher avec les grandes puissances. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, le monde doit trouver solution rapidement à ça pour que non, Donald Trump, lui, doit changer son stratégie de politique. Même le directeur de FBI, il a fait, il a créé problème sur lui. Donc, aujourd'hui, tout le monde connaît les cas de lui. À mon avis, je pense que vraiment, le monde, ils sont en train de miner le monde à cause de leur richesse, à mon avis.
Merci beaucoup, Diarra. Alors, Jim César, hein, vous avez entendu, il y a beaucoup, cet auditeur, est assez remonté. Il a dit beaucoup de choses, mais de façon générale, Trump n'a pas toujours été très bien compris par le reste du monde. Et ça, c'est peut-être les mots durs qu'il a eus vis-à-vis de ses alliés, ces façons qui sont peu orthodoxes. Est-ce que, et puis aussi, bon, une politique, franchement, America first, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque aussi de perdre de l'influence pour les États-Unis ?
C'est ce qu'on dit, ces opposants ici aux États-Unis ont le même sentiment que ces mots sont durs, qu'il n'est pas très présidentiel et ainsi de suite. Et c'est un peu sensible. Alors, on peut poser la question, est-ce que les autres vont, à la fin, être sympathiques avec son style ou est-ce qu'il va changer son style? Le dernier, je crois, est impossible. Il est fait comme il est fait. Il parle dans des manières tout à fait différentes d'autres présidents. Donc, peut-être que c'est une question de s'habituer un peu à sa manière de parler. On verra à l'avenir s'il continue à être président pour, je ne sais, 2 mandats, si c'est possible.
Ouais.
Mais la résistance est très forte au monde, et surtout aux États-Unis, où les démocrates sont vraiment opposés à sa présidence. Et on va voir le résultat.
Il a souvent donc aussi critiqué l'OTAN parmi les mots durs qu'il a eu contre ses alliés. Il s'est plaint de certains membres qui ne dépensent pas assez sur leur propre défense. Il a aussi reproché à d'autres pays européens d'être trop souples face aux terroristes. Est-ce que les relations avec les alliés sont endommagées ?
Je dirais un peu, mais maintenant je crois que peut-être que les alliés ils comprennent un peu que Trump est différent dans sa manière de parler. Et c'est vrai que ce qu'il a dit en ce qui concerne leurs dépenses, les dépenses des pays européens, il a menacé les Européens en disant il faut que vous soutenez l'OTAN et ne pas seulement parler, mais de donner l'argent comme vous avez promis. Et ensuite, on peut dire qu'il a reçu un peu de résultats. Les autres pays commencent à dire nous allons payer plus, nous allons faire ce qui est nécessaire. Donc, peut-être qu'il déjà il a une bonne réponse et que peut-être que c'était vraiment nécessaire. D'autres choses qu'il a dites en ce qui concerne l'OTAN, surtout au début, étaient un peu décevants, si je peux dire, en disant que peut-être l'OTAN ne défendra pas l'Europe, etc., etc. Il a changé un peu là-dessus et est plus présidentiel dans ce domaine-là.
Mais écoutez, ce seront les mots de la fin. Merci à vous, hein, Jim César, d'avoir été des nôtres. Merci à tous nos auditeurs. À la production, c'était Cheikh Thiraud, Morgane Guiriec au micro. À bientôt.